Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur mon Dieu, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et ton règne n'aura pas de fin. Ton règne n'aura pas de fin, Seigneur. Il est vrai que ton règne n'est pas encore établi sur toute cette terre, mais il est établi dans le cœur de ceux qui ont cru en toi et qui sont sauvés par grâce. Seigneur, nous faisons partie des membres de ton royaume, mais bientôt ton royaume sera effectif sur toute cette surface de la terre. Et nous attendons ce jour avec impatience. Seigneur, veuille nous parler encore. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes dans l'univers, et bientôt tu mettras tous tes ennemis sous tes pieds. Merci Père, veuille nous enseigner encore à cette heure. S'il te plaît, parle-nous par ta parole est la vérité. Merci Jésus, merci. Jésus, rejeté par Israël, pourquoi? Depuis passablement de semaines, de dimanches, nous avons parlé de la fin des temps, de tous ces événements qui viennent, qui viendront bientôt et qui viennent sur ce monde alors que le temps passe. Et le plus grand signe de la fin des temps, c'est ce peuple d'Israël qui a retrouvé son pays. Son pays qui fait l'objet de convoitises, de disputes dans le monde entier, de la part de ses ennemis, de la part de ceux qui pensent l'aider, mais qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, qui veulent une paix à n'importe quel prix pour un tout petit morceau de terre. Plein de paradoxes dans l'histoire d'Israël actuelle en nos jours. Mais Israël n'a pas accepté Jésus, son Messie. Pourquoi? J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 11, versets 25 à 27. 25 à 27, il est dit là. 25 à 29. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, quoique, pour l'instant, comme dit l'apôtre, ils soient ennemis de l'Évangile. J'aimerais vous rappeler cette parole que nous avons déjà lue, qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 9, où il est écrit, c'est une parole inspirée par l'Esprit de Dieu à Moïse. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Les Juifs ont cru dans cette parole de Moïse. Ils ont cru dans ce prophète que Moïse a annoncé. Ce prophète qui serait comme lui, Un homme exceptionnel tel qu'était Moïse, et même plus que Moïse. Ils ont cru que ce prophète viendrait et qu'il l'écouterait. Et qu'il l'écouterait. Mais lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Serait-il celui qui délivrera Israël de ses ennemis, qui délivrera Israël de la domination de Rome et qui établira son royaume à travers lequel ils auraient, eux, Israël, l'hégémonie sur toutes les nations de la terre? Nous voyons que cette pensée était dans le cœur des Israélites au temps de Jésus. Dans le cœur de la nation entière, nous le voyons par exemple à travers ces deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui sont frères. Ils ont même demandé à siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume, dans leur pensée, dans son royaume, maintenant sur cette terre, dans un royaume temporel. Ce royaume qu'il va établir sur la terre, ils y croient, mais ils ne voient pas plus loin que le royaume maintenant. Mais Jésus est venu pour bien plus que cela, bien plus que cela. Et ça, personne en Israël ne l'a compris. Pour tout Israël, le Messie va les délivrer de la domination, de Rome et leur donner la suprématie sur le monde. Voilà ce que Israël attend. Au jour des rameaux, nous le voyons encore, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, assis sur un âne, avec la foule qui l'acclame, ils ont loué Dieu. Ils l'ont loué à cause de ses œuvres merveilleuses. N'avait-il pas ressuscité Lazare, qui était dans la tombe depuis 4 jours, à peine quelques jours de cela? N'a-t-il pas fait marcher les paralytiques, ouvert les yeux des aveugles, chassé les démons, ressuscité les morts? Oui, c'est vrai, il a une puissance. Oui, c'est vrai, regardez ses œuvres. Oui, c'est vrai, n'est-il pas celui qu'a annoncé Moïse? Ses œuvres glorieuses, desquels ils ont tous été témoins en Israël. Ils n'avaient pas de journaux, ni de télévision, ni de radio, mais croyez-moi, un tel prophète en Israël ne passait pas inaperçu. Et tous savaient les promesses qui avaient été faites dans les Écritures concernant celui qui viendrait pour les délivrer. Nous lisons dans Matthieu 21, 11, Ils se sont écriés en ce jour-là, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils ont regardé à lui comme à un roi conquérant. Lorsqu'il est rentré à Jérusalem assis sur cet âne, ils l'ont acclamé, car ils l'ont vu comme étant un roi conquérant qui vient prendre son pouvoir et son autorité. Il a une telle puissance, il a un tel pouvoir, il a une telle autorité qui impressionnait même ses opposants. Il est celui qui doit venir, celui qui a été annoncé. Ils ont tous un immense espoir, mais leur espoir est pour le temps présent. Leur espoir n'est pas pour les nations, mais que pour eux. Ils pensent qu'il ne vient que pour eux. Mais le plan de Dieu n'est pas seulement pour un peuple, mais son plan c'est de se révéler à travers un peuple au bénéfice de toutes les nations. Mais quand il s'est laissé arrêter, ce roi qui était rentré à Jérusalem, assis sur son âne, acclamé par la foule, ce roi duquel on pensait qu'il allait prendre son royaume, son autorité à Jérusalem en ce jour-là, lorsqu'il s'est laissé arrêter, lorsqu'il s'est laissé juger, crucifié, et qu'il n'est pas intervenu pour lui-même de façon miraculeuse, qu'il s'est laissé crucifier sur une croix, Tout le monde a cessé de croire en lui. Tous ont cessé de croire en lui. Et ils ont crié, tous, crucifie, crucifie-le. Et que son sang retombe, retombe sur nos têtes, sur nous et sur nos enfants. Ils se sont maudits eux-mêmes. Ils n'ont pas su discerner. Il n'est pas le prophète promis, alors, puisqu'il est mort. Il n'est pas le prophète promis, alors, puisqu'il n'a pas pris son autorité. Selon leur compréhension, ils le rejetèrent, lui, leur Messie. Esaïe s'exprime et il dit ceci dans Esaïe 59, 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour, comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Voilà ce qui s'est passé pour Israël. Ils ont eu des yeux, mais ils n'ont pu voir. Ils avaient des oreilles, mais ils n'ont pu entendre, car ils étaient bloqués dans leur compréhension. Par une interprétation charnelle des Écritures qu'ils connaissaient tellement bien. Mais Dieu, malgré tout, garde son alliance et la promesse du royaume à venir reste valable plus que jamais. Dieu garde ses promesses. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Sa parole est vraie. Et cette parole ne peut varier. Elle est vraie. Elle demeure. Elle sera exécutée. Il est fidèle envers son peuple, même si son peuple l'a rejeté. L'apôtre Paul nous dit que c'est un mystère. Un mystère. Paul dit à l'Église que l'aveuglement spirituel d'Israël est un mystère. Dans Romains 11, 25 à 27. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas pour sages, vous, païens. Vous avez cru en Jésus, vous pouvez vous penser supérieur et sage, parce que vous avez discerné le Sauveur, le Messie, Jésus qui est venu sauver d'abord, dans un premier temps, le monde en entier, donner sa vie en sacrifice pour le monde, et vous pouvez penser de vous-même que vous êtes sage. Non, faites attention. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Il appelle ça un mystère et je le souligne, c'est un mystère. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Oui, tout Israël sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Et au verset 29, cette parole, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Durant des milliers d'années, Israël a été une nation qui a cru et qui a regardé à son Dieu. Alors que toutes les autres nations ont ignoré, étaient dans l'ignorance du Dieu unique, ne le connaissant pas. Ce Dieu unique qui est lumière, vérité, sainteté, pureté. Alors que ceux qui étaient dans les ténèbres, ils ont ignoré le Dieu unique, les nations. Et ils étaient dans les ténèbres, ce Dieu unique qui est un Dieu de lumière. Ils sont restés dans des ténèbres spirituelles. Les prophètes d'Israël ont fait connaître le Dieu unique. Et ils l'ont annoncé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce Dieu unique qui personnellement, s'intéresse à l'humanité tout entière, non pas seulement à une nation, mais à l'humanité tout entière. Dans sa destinée, la destinée des nations, des hommes de chaque nation qui aient en tant que destinée la vie éternelle à travers le chemin du salut qui est Jésus, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu faite chair, le salut à travers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas compris que tous ces sacrifices qu'ils ont offerts selon la loi de Moïse pour les péchés du peuple n'étaient qu'un symbole de celui qui paierait de sa propre vie, le salut de quiconque croit en lui, qui était comme le substitut, afin de prendre notre condamnation pour celui qui croirait en lui. Israël a rejeté son Messie, annoncé de façon claire par les prophètes. Un voile d'aveuglement dont nous parle Paul, d'aveuglement spirituel, est tombé sur eux, qui pourtant étaient des gens les plus spirituels et éclairés en matière de connaissance des choses de Dieu. Ils étaient les plus spirituels dans le monde d'alors et les plus éclairés en matière des choses spirituelles. Mais un voile d'aveuglement spirituel est tombé sur eux pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ils avaient fait du culte institué par Dieu, selon la volonté de Dieu, à travers Moïse et la loi qui leur avait été donnée. Ce culte était devenu que forme extérieure et leur cœur était éloigné de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont eu les yeux voilés, et ils n'ont pas compris ce que Dieu avait comme plan à travers eux au bénéfice de toutes les nations, en passant par eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16, nous lisons ceci. « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il n'est enlevé qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Voilà une explication que nous donne ici l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Dieu agit toujours par étapes. D'abord, l'ancienne alliance est l'enseignement que Dieu voulait donner à travers son peuple pour préparer le monde en entier à la venue de celui qui porterait les péchés du monde entier à travers les âges pour sauver ceux qui croient en lui. Et du reste, ceux qui ont cru en ce Sauveur à travers les sacrifices d'animaux, qui ont cru et qui étaient sincères de leur cœur, ont été sauvés à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Ils ont tous attendu le jour de la délivrance. C'est la raison pour laquelle Jésus était descendu dans le séjour des morts pour libérer tous ceux qui attendaient celui qui porterait leur péché. Et dès l'instant où il est mort sur la croix de Golgotha, tous ceux qui étaient morts dans la foi dans le passé, sous l'ancienne alliance de Moïse, ils ont été libérés du séjour des morts et sont rentrés dans le paradis. Comme il est écrit, cet endurcissement d'une partie d'Israël a été pour les païens une bénédiction. Pour ceux qui croient en Jésus le Messie et reçoivent de lui le salut par grâce, ceci a été une bénédiction pour les païens, mais seulement pour les païens qui se repentent et se tournent à Jésus-Christ par la foi pour recevoir le salut. Les Juifs ont rejeté Jésus, c'est vrai. Car à leurs yeux, il a failli à sa mission. n'ayant pas fait ce qu'ils pensaient qu'ils devraient faire en leur faveur, c'est-à-dire détruire le mal, nous voyons ça dans leurs écrits, détruire le mal, ainsi que tous leurs ennemis, en l'occurrence les Romains, et établir un royaume éternel avec Israël comme nation prééminente sur le monde. Comme il n'a pas fait cela, il considère qu'il a manqué à sa mission, donc il n'était pas le Messie attendu. Mais ils ne comprirent pas que Dieu voulait aussi sauver le monde entier, et que pour cela, aussi bien que pour Israël, que est le monde, il fallait que le Messie Jésus donne sa vie en rançon pour le péché des hommes. Dans Actes 18, chapitre 18, verset 6, il est écrit: mais comme les Juifs s'opposaient à lui, c'est-à-dire à Paul, avec des blasphèmes, ils étaient très violents, parce qu'ils n'acceptaient pas le message de l'Évangile. Ils se sont opposés à cet Évangile. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Et dès maintenant, j'irai vers les païens. Dieu a ouvert la porte aux païens. Les Juifs l'ont rejeté pour les raisons que je vous ai données. Et cet évangile a été ainsi porté aux païens par des Juifs. Gloire au Seigneur. Car il y en a beaucoup qui ont cru en lui à cette époque-là. Mais les religieux, les chefs religieux de ce temps l'ont rejeté. Dans Romains 9, 23 et 24, il est écrit: il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est-à-dire à nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Oh, merci Seigneur, tu ne nous as pas oubliés. Nous ne sommes pas Juifs, Seigneur. Seigneur, tu sais d'où nous sortons. Tu connais notre passé, tu connais notre famille. Nous étions des idolâtres, loin de toi. Mais ta compassion était si grande que tu as voulu, Seigneur, nous sauver et nous arracher d'entre les griffes de l'ennemi, de l'occultisme et des puissances mauvaises. Dans Galates 3, 14, il est dit: afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham, nous en avons parlé ici, des promesses et de la bénédiction d'Abraham, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Cette bénédiction d'Abraham, elle est au bénéfice aussi des païens qui viennent et croient en Jésus-Christ, leur sauveur, des gentils, des non-juifs, mais avec la condition qu'ils passent par Jésus-Christ le Seigneur. De nombreuses prophéties dans Ésaïe et dans les psaumes et dans d'autres prophètes décrivent un Messie souffrant qui sera persécuté et même qui sera mis à mort. Mais les autorités religieuses juives ont préféré considérer les prophéties qui parlent de sa gloire et de sa victoire sur ses ennemis plutôt que de parler de celles de ses souffrances et de son sacrifice. Des commentaires écrits avant le temps du christianisme. Ces commentaires écrits que l'on retrouve dans le Talmud parlent des prophéties messianiques de Ésaïe 53 et le psaume 22. Là, ce sont des prophéties messianiques évidentes. Ésaïe 53 et psaume 22. Et d'autres à travers les prophètes. L'auteur de ces commentaires, donc dans les temps passés, avant l'existence du christianisme tel qu'il s'est développé, à travers les apôtres. L'auteur de ce commentaire se demande, il pose la question, comment ces prophéties du Messie souffrant s'accompliront-elles dans la perspective du royaume du Messie? Il se posait les questions parce qu'il connaissait les Écritures et il voyait bien, en lisant toutes ces prophéties, ce qui était écrit. Et il se posait la question, comment ces choses se passeront-elles? L'Église chrétienne, depuis sa naissance, a reçu ces passages comme preuve de la réalité du Christ, souffrant pour l'expiation du péché du monde entier. Voilà. Étant venu une première fois pour porter les péchés du monde entier, pour porter les péchés du monde entier, l'Église des premiers temps ont tout de suite discerné cette différence qui faisait pour les Juifs une énigme. Ils ne savaient pas comment expliquer ces prophéties du Messie souffrant. Les Juifs prirent la position que ces prophéties ne se rapportent pas au Messie, mais à Israël ou à quelqu'un d'autre. Leur argument pour appuyer cette thèse est que Jésus ne peut être le Messie promis, car il n'a pas réussi dans sa mission, puisqu'il a été tué et il est mort. Ils reconnaissent que Jésus a rempli beaucoup des prophéties du Nouveau Testament dans ses commentaires. Ils reconnaissent cela. Par exemple, sa naissance à Bethléem, ils le reconnaissent, selon les prophéties. Et puis sa sortie d'Égypte avec ses parents, lorsqu'ils ont fui les menaces d'Hérode, ils le reconnaissent, c'est dans les prophéties. Qu'il vivait à Nazareth, ils le reconnaissent aussi, puisque c'est dans les prophéties. Annoncé par un messager, un précurseur, Jean-Baptiste, ceci, ils le reconnaissent aussi, puisque c'est dans les prophéties. Qu'il faisait des miracles étonnants, ça, ils le reconnaissent aussi, des miracles étonnants. Étant un enseignant qui surpassait tous les autres, un enseignant puissant, ceci, ils le reconnaissaient. Mais comme leur père, ils disent, Jésus a été tué, il n'est pas ressuscité. Il ne peut donc être le Messie glorifié. Voilà leur conclusion. Car certes, ils connaissent les Écritures, et ils nous passent beaucoup d'entre nous, et ils peuvent lire les Écritures dans les textes originaux. Et ils l'étudient jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui passent leur vie à étudier les Écritures. Ils rejettent donc sa résurrection d'entre les morts. C'est là le problème d'Israël vis-à-vis de Jésus. Car jusqu'à ce jour, ils croient le mensonge qui a été répandu après la résurrection de Jésus. Nous lisons ça dans Matthieu 28, versets 11 à 15, où il est écrit, « Des hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Vous vous souvenez, vous avez lu, lorsque Jésus a été mis au tombeau, on a roulé une grosse pierre devant le tombeau et on a mis des gardes armés autour du tombeau pour garder le tombeau afin que ses disciples ne disent pas ne viennent pas pour prendre son corps et parler et dire qu'il était ressuscité. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, mes frères, tous ces hommes sont tombés comme morts. Rien ne pouvait retenir le Sauveur ressuscité. Et alors, ces hommes allèrent dans la ville, c'est ce qu'il y a à dire. Et ils rapportèrent, ils donnèrent leur rapport au souverain sacrificateur. Ceux-ci, donc, après s'être assemblés avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Oh, l'argent! Que de corruption avec l'argent! depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ils donnèrent de fortes sommes d'argent en ajoutant, « Dites, répandez ce bruit, ces disciples sont venus de nuit et le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, le gouverneur romain bien sûr, l'apprend, nous userons de persuasion, évidemment avec de l'argent, hein? Nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent. » Ah, les soldats sont partout la même chose. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ah, mes amis, ce mensonge, quelles conséquences, croyez-vous que nos actions et même nos mensonges ne portent pas à conséquence? Hommes de Dieu, enfants du royaume, êtes-vous des gens, des colporteurs de mensonges, de demi-vérités? Êtes-vous des hommes et des femmes qui cherchent un bénéfice illicite à travers des manipulations quelconques selon le monde? Attention! Il y a conséquence à tout ce que nous faisons et nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu, Jésus. Jésus. Durant des années de ministère de Jésus en Israël, à tout moment, les Juifs demandèrent à Jésus son identité. Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Et combien de fois ils ont posé la question, qui il était en réalité? Que disait-il de lui-même? Car, pourquoi cela? Car il savait, connaissant les Écritures, particulièrement à travers le livre du prophète Daniel, que le Messie était supposé de venir en ce temps-là. Il le savait. Des commentaires écrits par des rabbins juifs au Moyen-Âge, donc ce n'est pas à notre époque, au Moyen-Âge, donc après la venue de Jésus, admettent que la venue du Messie, selon les prophètes, devait se manifester avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ils le savaient à travers le livre. Ils savaient par le livre de Daniel que le Messie viendrait après 69 semaines d'années. Là, nous avons la façon de compter de la parole de Dieu. Semaine, 69 semaines d'années. Une année par jour de semaine. Ce qui fait 7 fois 69, 483 années bibliques de 365 jours chacune. Je pense que vous avez déjà lu le livre de Daniel, donc vous comprenez ce que je vous dis. Si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, lisez votre Bible. Ceci en partant de l'époque de Néhémie jusqu'à Christ, 483 ans jusqu'à Christ. Et ça, ils le savaient. Ils étudiaient la Bible plus que vous, croyez-moi. Qu'attendez-vous pour lire la parole de Dieu et l'étudier? C'est-à-dire, à partir du décret permettant de reconstruire les murs de Jérusalem, ce décret a été promulgué par Artaxerxès au dernier jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le 14 mars 445 avant Christ. Les dates sont précisément données dans la parole de Dieu et dans l'histoire. L'expectation grandissante, donc, de la venue du Messie est bien claire dans l'explication donnée au roi Hérode. Au roi Hérode, par les scribes, les sacrificateurs et les docteurs de la loi, lorsque les mages se sont enquéris concernant la naissance du Messie, que le Messie devait naître à Bethléem. Lorsque la question leur a été posée à la venue des mages de l'Orient, Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6, il est dit. Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Ils avaient raison. Il est à remarquer que avant Jésus, le Messie, personne ne s'était faussement prétendu déclarer être Messie. Mais quand le véritable Messie est venu, une foule de faux messies, une foule de prétendus messies se sont manifestés comme pour brouiller la vérité, comme pour masquer le véritable. Une seule fin de rejeter le Messie est provoquer la confusion et l'incrédulité envers le véritable Messie. Après Jésus, il y eut nombreux faux Messies. Comme Jésus leur a dit, dans les derniers temps, il y aura de faux Christ. Christ veut dire Messie. Il y aura de faux prophètes, il y aura de faux Christ. Et il y en a eu à travers toute l'histoire, même d'Israël, de faux Messies qui se sont levés, qui ont été une grande déception pour Israël, qui mettaient leur espoir dans des hommes. Or, celui qui est venu était plus qu'un homme. Israël attend deux messies. Car Israël, jusqu'à aujourd'hui, cherche à expliquer les Écritures dans lesquelles il croit. Mais ils ont encore un voile devant les yeux. L'Église de Jésus-Christ a toujours enseigné que le même Messie viendrait deux fois. D'abord, pour servir dans la souffrance, à travers le rejet, qu'il se sacrifierait pour le péché du monde entier, qu'il payerait la rançon du péché, que tous les sacrifices du passé n'étaient qu'un symbole, une image de celui qui allait venir, et que ces sacrifices ne faisaient que de couvrir le péché, mais que lui seul pouvait enlever, ôter le péché. Et ensuite, qu'il viendrait une deuxième fois en roi glorieux pour établir son royaume. Les Juifs attendent toujours leur Messie. Les rabbins juifs ont toujours rejeté cet enseignement, n'acceptant pas la résurrection. La souffrance du Messie pour le salut étant évidente dans les paroles des prophètes. Cette souffrance du Messie étant évidente, nous voyons que dans les commentaires de ces passages dans le Talmud, parle de deux messies différents, l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils expliquent cette réalité qu'ils constatent. Ils suggèrent que l'un apparaîtra à la guerre de Gog et Magog. Nous lisons ça dans Ézéchiel 38, chapitre 38 et chapitre 39. Deux chapitres qui nous parlent de la guerre de Gog et Magog, qui sera une coalition russe et arabe contre Israël. Ils pensent que ce premier Messie conduira les forces d'Israël à la victoire, mais qu'il sera tué et que son nom sera Messie ben Joseph, Messie fils de Joseph. Comme il sera tué dans la bataille, il accomplira, disent-ils, les prophéties du Messie souffrant. Il suggère également que le second Messie, auquel il donne le nom de Messie Ben David ou Messie fils de David, se manifestera alors et conduira Israël dans le royaume promis pour la rédemption d'Israël en tant que nation. Cette interprétation est leur façon d'exprimer le fait indéniable que l'Écriture parle de deux périodes bien séparées l'une de l'autre, de deux venues du Messie distinctes auxquelles nous croyons, deux venues du Messie bien distinctes l'une de l'autre. Premièrement, du Messie qui a été rejeté, du Messie qui a été persécuté, mais qui a porté le péché des hommes. Il a porté le péché des hommes à Golgotha. Voilà. Et après cela, il est ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, la deuxième partie, c'est la victoire glorieuse remportée sur ses ennemis et la rédemption d'Israël et le règne sur toute la terre du même Messie. Cette réalité de devenu du Messie est ce que déclarent les prophètes. Et cela en une seule personne et non pas en deux personnes. Car il est plus qu'un homme. Il est véritablement homme, mais il est venu d'en haut par l'intervention de Dieu pour sauver l'humanité. Il y a confirmation de tout cela dans la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Le chrétien biblique croit à l'évidence que Jésus de Nazareth accomplit les prophéties de la première venue de Jésus, le Messie, souffrant, mis à mort pour le salut du monde. Et enfin, ressuscité d'entre les morts, et qui est monté au ciel victorieux sur le péché et sur la mort. Il a vaincu l'ennemi. Ce même Jésus, Messie, reviendra alors pour prendre les siens parmi les nations, les siens qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et il reviendra donc pour prendre les siens et pour sauver Israël, son peuple. Il établira alors son royaume à partir de Jérusalem, où il résidera en tant que roi universel et jugera le monde rebelle. Tout cela prendra place à sa deuxième venue. Frères et sœurs, il est bon de connaître ces choses. Pour nous, nous savons que Jésus, le Messie, est ressuscité et qu'il vit dans la gloire. Il est venu dans le monde et nous croyons qu'il a pris la nature humaine par sa naissance à travers une intervention de Dieu dans une femme en Israël. Et c'est ainsi qu'il est fils de l'homme. Et par sa descendance, il est fils de David. Mais qu'il était aussi de nature divine par le Père éternel et qu'il est fils de Dieu. Créateur, Seigneur, Sauveur, étant humain, par sa naissance, il a connu la mort et la souffrance qu'il a acceptée volontairement pour servir de sacrifice expiatoire pour le péché du monde entier. Non seulement pour Israël, mais aussi pour nous, Congolais. Et nous avons besoin de ce Sauveur, plus que jamais. Quand je vois la misère de notre pays, alors que je voyage à travers le pays, nous voyons des choses inacceptables. Tout cela engendré par le péché. Mais mes frères, prenez courage. Il y a espoir dans Jésus, le Messie. Si seulement nous croyons en lui, il va nous libérer. Libéré du joug du péché qui affecte notre nation et le monde entier. Jésus a accepté, le Messie a accepté cette mort pour notre salut. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Oui, il est mort, une mort maudite, une mort dégradante, mais la mort ne pouvait le retenir. Il est ressuscité et il règne dans la gloire. Il reviendra bientôt pour prendre les siens et pour la rédemption d'Israël, son peuple. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10, il est dit, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Le règne et tout Israël sera sauvé. Le règne messianique dont nous parlent les prophètes s'établira sur toute la terre, non seulement en Israël, mais sur toute la terre. Un règne de 1000 ans qui finira avec le grand jugement dernier et l'établissement éternel de la nouvelle terre et des nouveaux cieux en une entité unique. Dieu vivra avec les hommes, comme nous dit Apocalypse 22, 4. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et il n'y aura besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Baissons la tête. Seigneur, ta parole nous touche jusqu'au fond de notre cœur et nous comprenons mieux pourquoi ton peuple t'a rejeté. Mais Seigneur, tu n'as pas oublié ton peuple et encore aujourd'hui tu appelles aussi bien ton peuple que les nations à croire en toi et à se jeter dans tes bras. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au milieu de notre misère et de notre décadence morale et économique. Dans notre décadence, Seigneur, à cause de nos péchés, nous sommes sous la malédiction. Mais toi, Seigneur, tu es le libérateur. Ô Jésus, tu es le libérateur. S'il te plaît, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Y a-t-il des hommes et des femmes ici qui veulent être libérés par Jésus le Messie, qu'il se lève. Libérés par Jésus le Messie, qu'il se lève. L'occasion que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Jésus veut vous libérer. Que Dieu vous bénisse. Jésus veut vous libérer. Il est là, Jésus le Messie. Il veut vous libérer, mes frères, du joug de Satan et du péché. Ce péché dégradant qui est en train de démolir notre société, notre nation et nos familles. Jésus le Messie est venu. Il est mort. Il est ressuscité, il est monté dans la gloire, il reviendra, le même est, le monde entier le verra. Ô Jésus, saisissez cette occasion, Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se lèvent à travers cette salle. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ils se lèvent parce que tu leur as parlé dans leur cœur et ils savent que cette parole est la vérité et ils veulent, Seigneur, se réconcilier avec toi. Je te prie, ô mon Dieu, ô mon Dieu, parle-leur et qu'ils aient le courage de mettre leur vie en règle, en ordre devant toi, Seigneur. Ô Jésus, et qu'ils aillent jusqu'au bout dans cette décision. Car la porte est ouverte aujourd'hui et cette porte, c'est la porte de la grâce. Demain, elle sera fermée. Ce sera désormais le jugement. Père, Père, rien ne va dans notre monde et dans notre pays. Ce n'est que la misère et le malheur partout. Seigneur, tout le monde, tout le monde va à reculons et dans la souffrance à cause du péché et de la malédiction. Mais en toi, nous pouvons trouver pleinement délivrance. Délivrance, Seigneur, de tout joug. Seigneur, s'il te plaît, touche ces hommes et ces femmes et qu'ils soient décidés de marcher dans la lumière pour te glorifier. Au nom de Jésus, reprenez vos places. Merci Jésus, merci. Seigneur mon Dieu, vous tous qui vous êtes levés, s'il vous plaît, nous voulons vous aider. Nous voulons vous aider. Ne partez pas ainsi. Parlez avec nos amis qui s'occupent des conseillers dans cette église, afin, frères et sœurs, que vous marchiez dans la vérité. Nous voulons vous aider à comprendre le message de la vie. Seigneur, sanctifie maintenant ces dîmes et ces offrandes. Que tout cela serve à ta gloire, ô mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Que ta gloire paraisse encore au Congo. Sauve les âmes, je t'en prie. Sauve les perdus. Jésus, Jésus. Aie compassion encore de notre nation. Et que chacun ait l'occasion de te recevoir et de croire en toi. Merci. Tu nous as parlé, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.